OK, on va commencer notre leçon numéro 2 sur, dans notre série « Le péché, les 10 commandements et la grâce ». Alors aujourd'hui, on va regarder la réalité du péché. Alors, il y en a dans les cours de l'histoire ou dans la philosophie qui ont prétendu que le péché était uniquement une illusion et non pas une réalité, tandis que la Bible affirme que c'est une effroyable réalité. Alors, pourquoi ils disent ça, que c'est une illusion? Parce qu'ils disent que Dieu a fixé tous les événements dans ses décrets et que puisque Dieu ne conçoit que de bonnes choses, il ne peut y avoir par conséquent une telle chose que le péché. Il y en a d'autres qui nient la réalité du péché sur la base que les hommes reçoivent leur dépravation d'une façon héréditaire. Ils maintiennent que les hommes sont nés avec une nature endommagée et dépravée, qu'ils ne peuvent être tenus responsables ou blâmables pour la malignité de leur conduite. Alors, on va examiner maintenant pourquoi de telles idées sont complètement fausses. Le premier point qu'on va regarder, c'est la nature elle-même proclame le péché. Alors, les Saintes Écritures nous apprennent que la nature elle-même a été affectée par la chute de l'homme dans le péché. On lit par exemple dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, elle dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Alors, on voit que la malédiction de la terre est arrivée après la chute de l'homme, et c'est une conséquence. Alors, on lit que le serpent a été maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, dans Genèse 3, 14. Il est évident que la création animale a souffert comme conséquence du péché d'Adam. Dans une époque future, cette malédiction sera enlevée et les féroces animaux sauvages se coucheront avec les dociles animaux domestiques. On peut lire ça, par exemple, dans Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 9, Ésaïe 65, verset 25, Osée, chapitre 2, verset 18. Alors, ça a été brisé par le péché, mais ça va être rétabli éventuellement par le Seigneur. Même la nature inanimée est présentée comme souffrant de la malédiction du péché d'Adam. Étant donné qu'il en est ainsi, la Bible nous dit d'ailleurs que le temps viendra où la création aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. On lit ça dans Romains 8, 21. Dans le fond, toute la nature elle-même participe à cause de la malédiction de la chute de l'homme. Ésaïe 35 nous parle de la restauration de la nature à ses conditions et beautés primitives. Adam et Ève furent chassés du jardin et forcés de se débrouiller dans ce monde déchu. Au début, ils étaient dans le milieu le plus beau et le plus parfait qui soit. Ils étaient maintenant obligés de se tirer d'affaire dans un monde imparfait et presque hostile. Leur milieu a définitivement subi un changement à cause du péché. Donc, comment on voit la réalité du péché? Première chose, on le voit parce que la nature elle-même proclame le péché. La deuxième, c'est que l'homme lui-même se reconnaît pécheur. Alors, par sa conscience, l'homme sait qu'il fait le mal. Alors, peu importe où l'homme se trouve sur la terre, que ce soit en Chine, aux Indes, en Afrique, n'importe où. On lit dans Romains 2, versets 14 à 16, « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, on le sait que les hommes, peu importe le pays dans lequel ils se trouvent, savent qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché à cause de leur conscience. Alors, le philosophe Sénèque confesse « Nous avons tous péché, certains plus, certains moins. » L'écrivain Ovide déclare « Nous désirons toujours faire ce qui est défendu. » Le grand génie Goethe remarque « Il n'y a pas un péché ou une faute que je n'aurais pu commettre moi-même. » C'est vraiment une grosse remarque, là. Quand tu regardes tous les péchés qui se commettent sur la terre, puis tu dis « Il n'y a pas un péché que je vois que j'aurais pu pas faire moi-même. » C'est que tu reconnais, puis Goethe, t'as pas un sauvé, là. C'est un païen. Alors, les Chinois ont aussi un proverbe populaire qui dit « Il n'y a que deux hommes bons. L'un est mort et l'autre n'est pas né. » Je trouve que c'est un beau petit proverbe. Troisième chose pour nous montrer la réalité du péché, le décalogue, bien entendu. Le décalogue, on va le voir plus en détail au cours des prochaines leçons. Donc, le décalogue, c'est la loi morale ou les 10 commandements. Ça révèle le péché. Romains 3:20, c'est vraiment un passage clé pour nous montrer qu'on apprend le péché par la loi. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Qu'est-ce qui nous montre, qu'est-ce qui est péché? Le décalogue. On a réussi à étudier le décalogue en profondeur, on va voir toutes les formes de péché à l'intérieur de ça. Donc, l'homme naturel va reconnaître que certaines actions de sa vie individuelle sont des péchés. Mais il est plus lent à accepter que la source de ses péchés est en lui-même, donc sa nature dépravée. Je lisais un article ce matin, c'est intéressant, parce qu'il parlait des péchés comme racines ou des péchés comme fruits. Souvent, on va être porté à confesser nos péchés comme fruits, ce qui sort, les différentes formes de péché. Mais la racine, c'est vraiment notre nature dépravée. Pourquoi on pêche? Parce qu'on est des pécheurs. La racine, c'est vraiment notre nature dépravée. Alors, Paul, avant sa conversion, se croyait juste devant Dieu, avant que la loi lui révèle son péché. On lit dans Romains 7, verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Donc, la loi morale ou le décalogue, on peut la définir avec des images. Par exemple, première image, c'est une échelle graduée par laquelle on peut mesurer son péché. On pourrait comparer ça à une échelle. C'est une échelle pour mesurer quelque chose. Jacques 2, versets 10 et 11, « Car quiconque observe toute la loi » mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Dans le fond, le passage est pour nous montrer que quand on pêche contre un des commandements, on brise la loi au complet parce que la loi est une, elle se tient. Autre image qu'on utilise pour parler de la loi morale, on en parle comme d'une loupe. Une loupe pour révéler. On sait qu'une loupe, ça grossit. Alors, la loi permet qu'on voit notre péché plus précisément. On en parle aussi comme étant un stéthoscope pour découvrir sa maladie morale. Alors, quand on va voir un médecin, le stéthoscope, ça sert à sonder. Et on pourrait parler de la loi comme étant un stéthoscope. Matthieu 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est Christ qui parle comme de raison. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voyez-vous, Christ venait ici démontrer la profondeur de la loi. Les Juifs de l'époque croyaient que si, par exemple, tu ne commettais pas l'acte de l'adultère avec une femme, dans la réalité, tu n'avais pas péché. Ici, Christ vient montrer que la loi allait beaucoup plus en profondeur qu'il le croyait dans ses exigences, parce qu'il leur dit, « Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors, il montre les péchés du cœur. Ça peut aussi une image, une règle droite pour démontrer il est croche. Si on veut prendre quelque chose de croche, puis si on met quelque chose de droit à côté, c'est très facile de voir parce que la règle droite nous montre, nous permet de découvrir que quelque chose est croche. Romains 7, versets 14 à 16, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc, c'est une règle. On peut en parler aussi comme un officier de justice qui exige la condamnation du coupable. Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre si on veut bien comprendre la grâce. Dieu nous dit qu'il exigeait une parfaite obéissance à tous les commandements, en tout temps, en toutes choses, et sans une seule exception. C'est ce qu'il nous dit. « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » Alors, ça est en train de nous dire que tous les hommes sont maudits, parce que est-ce qu'il y a un homme qui a déjà fait tout ce qui est écrit dans le livre de la loi? Zéro. Alors, il faut le recevoir par grâce. Autre image qui est utilisée, c'est comme si la loi était un juge qui condamne l'homme à mort. Romains 7, versets 10 et 12. « Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Alors, quatrième point pour nous montrer la réalité du péché, Dieu lui-même déclare la réalité du péché. Le Seigneur utilise plusieurs images pour nous faire saisir la réalité du péché, sa force, son horreur et sa folie. Le péché, comme la bête du livre de l'Apocalypse, a plusieurs têtes. Donc, on peut parler de péché comme maladie. Cette maladie est grave, sévère et contagieuse. Elle contamine et corrompt tout l'être. Le Seigneur a, par exemple, parlé de l'iniquité de Sodome avec les mots suivants. Genèse 18, verset 20. « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. » Alors, on en parle comme d'une maladie. On en parle aussi en utilisant une autre image, un nuage noir. Ce nuage est si grand qu'il empêche de voir la face de Dieu, nous privant ainsi de son approbation et de ses bénédictions. Ésaïe, chapitre 59, verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors, on en parle vraiment comme un nuage noir qui empêche de voir Dieu. On en parle aussi comme d'une corde. Proverbe 5, verset 22. « Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. » On dit que quelqu'un est esclave de quelque chose, c'est comme s'il serait attaché à son péché. On en parle comme d'un lien, une corde. On en parle aussi comme étant une bête sauvage menaçante. Cette bête est cachée et prête à sauter sur sa victime pour la dévorer. Par exemple, dans Genèse chapitre 4, verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alors, on a ici vraiment Caïn et Abel, et le Seigneur parle à Caïn et lui dit que le péché est comme une bête qui est prête à sauter sur lui, à moins qu'il ne se repente. Cinquième image, on parle du péché comme étant un destructeur de paix. Le péché amène son cortège de douleur et d'angoisse. C'est ce que David a connu lorsqu'il s'est exclamé, par exemple, dans le psaume 38, versets 3 à 8. On sait que c'est les psaumes qu'il a composés après sa chute dans le péché. Il dit « Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Alors, on voit que ça l'amène vraiment du trouble dans la vie de quelqu'un qui pêche. Et aussi, on en parle comme une image, un voleur de bénédiction. Le péché appauvrit l'âme, la dénude et la prive de bénédiction divine. C'est ce que Jérémie a rappelé à Judas lorsqu'ils étaient dans la captivité. Jérémie chapitre 5, versets 24 et 25. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Donc, le péché est un voleur de bénédiction. Septième image qui est utilisée pour parler du péché, on en parle comme d'un dévastateur. Le péché a le même effet qu'une tornade ou qu'un tremblement de terre. Il détruit et amène la désolation. Michée, chapitre 6, versets 13 à 15. « C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le moût, tu ne boiras pas le vin. » Donc, un dévastateur, c'est que le péché finit par apporter la dévastation autour de nous. Huitième image, un outil de renversement du bien-être. Dieu se sert du péché comme outil pour juger son peuple et le renverser. Proverbe 13, verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. On en parle aussi, une neuvième image, comme une marque indélébile. Donc, le péché laisse une marque indélébile sur celui qui le commet. Jérémie, chapitre 17, verset 1. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. On en parle aussi comme une présence, une dixième image, une présence trahissante. Alors le Seigneur permettra que le péché soit découvert, peu importe l'habileté que le pécheur prendra pour le camoufler. Si on sait que on regarde un peu les commissions d'enquête, là, c'est vraiment drôle, chaque fois que quelqu'un se fait prendre, sont toujours innocents, sont toujours victimes, on les a toujours accusés à tort. Mais le Seigneur dit dans Nombre 32, verset 23, « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Le Seigneur permettra toujours que le péché, même s'il a été caché pendant un certain temps, qu'un jour, ça va venir à la lumière. On en parle aussi comme un témoin accusateur. 11e image, Ésaïe 59, verset 12, « Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. » Puis on parle des péchés comme un témoin. Ils témoignent contre nous. Alors, c'est comme un témoin accusateur. On n'aime pas les témoins accusateurs parce que... Et c'est aussi une addition pesante. Ésaïe, chapitre 30, verset 1. « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. » Donc, ça s'accumule. Cinquième point pour nous démontrer la réalité du péché, Christ lui-même révèle la réalité du péché. La lumière d'une blancheur immaculée et éblouissante de la sainte présence du Christ révèle la condition impie du pécheur. Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 6, verset 5, « En voyant Jéhovah dans sa sainteté, Ésaïe s'est écrié, alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors, on parle ici d'Isaïe, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il était en train de juger toutes les nations autour, puis il les jugeait très sévèrement. Mais quand il était placé devant Dieu, là, c'est pas les autres qui accusaient, c'est lui-même. « Oh, je suis un homme, moi. » Non, les lèvres sont impures. Aussi, le souvenir de sa délivrance par Dieu, du roi David, le poussa à s'exclamer. Psaume 22, verset 6, « Ah, et moi, je suis un ver et non un homme. » Autre image, la maladie du pouvoir de Christ amena Pierre à confesser. Voyez-vous, Pierre était un apôtre, un homme sauvé, puis éventuellement, quand il est placé devant le Seigneur Jésus-Christ et qu'il a vu son péché, il lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Alors, quand on est placé devant Jésus-Christ, qu'on voit sa lumière, on se reconnaît comme un homme pécheur. La contemplation aussi de la maison du Père éveilla le sentiment d'indignité chez le fils prodigue. On lit dans Luc 15, verset 19, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ça nous met face à notre indignité. Cinquièmement, l'application de la loi de Dieu dans sa spiritualité conduisit Paul à déclarer dans Romains 7, 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Sixième, le développement de la gloire de Dieu poussa Job à un cri. Dans la version Darby, Job 40, verset 4, il dit « Voici, je suis une créature de rien. » En anglais, je trouve ça encore plus fort, dans la King James, il dit « Behold, I am vile. » Vil, je suis un homme vil. Alors, ça, c'est notre ami Job, après que Dieu lui a montré son péché, qu'est-ce qu'il déclare? « Behold, I am vile. » Je suis un homme vil. Malgré qu'il était dans la droiture, il reconnaissait quand même son péché. Septièmement, le rappel des bontés du Seigneur fit dire aussi au psalmiste, psaume 40, verset 17, « Moi, je suis pauvre et indigent. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait la différence entre la pauvreté et l'indigence. La pauvreté, c'est quand on n'a pas beaucoup de choses. L'indigence, c'est quand on n'a rien du tout. Un vrai indigent, là, c'est comme une personne dans la rue, il n'a rien du tout. Alors, quand on se regarde face au Seigneur, on peut dire, comme le verset, « Mais moi, je suis pauvre et indigent. » Donc, au point de vue spirituel, on peut trouver nos choses qu'en lui. Huitièmement, Jacob reconnut son indignité devant la grâce de Dieu. On sait que Job avait été beaucoup béni par le Seigneur, mais à un moment donné, il reconnut qu'il ne méritait rien de tout ça. Il dit, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » Et neuvièmement, la connaissance de Christ et sa présence nous amène à nous exclamer, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Alors, Paul, malgré la sainteté de sa personne, était quand il était placé face au Christ, il a été le premier à déclarer qu'il était le plus grand des pécheurs. Sixième point pour nous montrer la réalité du péché, l'expérience nous démontre la réalité du péché. L'expression « j'ai péché » est enregistrée une multitude de fois dans les Saintes Écritures. On va prendre des exemples. Pharaon, qui n'était pas un homme sauvé, un roi, il était un lâche, pour dire, endurci. Il a reconnu, devant les jugements du Seigneur, qu'il était un péché. Alors, il a constaté les conséquences de sa rébellion contre Jéhovah. Dans Exode 9, il dit, « Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » Autre démonstration, Balaam aussi, qui était un prophète égoïste, il s'est exclamé, « J'ai péché lorsque l'ange se mit à travers de son chemin. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là. L'ange s'est mis à travers de son chemin et il a reconnu qu'il était péché. Nombre 32, verset 34, « Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché. » car je ne savais pas que tu ne fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Autre démonstration de personnes qui ont reconnu son péché à Caïn. Le rebelle rempli de convoitise quand il a pris le manteau de Chinéar et qu'il a caché en dessous, là. Il a confessé son péché, il a dit « J'ai péché » lorsque son iniquité a été amenée à la lumière. Josué, chapitre 7, verset 20, « Acan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. » David, alors on a des exemples dans ces passages-là où c'est des incroyants qui reconnaissent leur péché ou c'est des croyants. Comme par exemple, quand on parle de David, là c'est un croyant. Le croyant humilié, quand il a péché avec Bathsheba, il a confessé « J'ai péché » lorsqu'il a admis sa perversité. 2 Samuel, verset 19, verset 20. « Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. » Néhémie, l'humble serviteur, s'est inclus lui-même dans le péché de la nation. Néhémie 1, verset 6. « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. » Alors, il reconnaît que dans la nation, il confesse les péchés de la nation, mais il s'inclut. Il ne dit pas, bien, eux autres, ils ont péché, puis nous, je suis correct. Il dit, nous, notre péché, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Alors, Néhémie reconnaît son péché. Job, bien entendu, on est en train de l'étudier. Quand il a été éprouvé, il a reconnu son iniquité. Job, chapitre 7, verset 20 et 21, il dit, « Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que ne m'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras, je ne serai plus. » Puis il reconnaît aussi à la fin du livre, Michée se condamne lui-même en voyant la justice de Jéhovah. Michée, chapitre 7, verset 9, « Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. » Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Judas, qui n'est pas le moindre des pécheurs, quand il a reconnu l'énormité de son péché, dans Matthieu 27, versets 3 et 4, « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Et le 9e exemple, le fils prodigue, après qu'il eut dilapidé l'héritage de son père et qu'il se repentit dans Luc 15, 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors, l'expérience nous montre, autant chez les païens que chez les croyants, que l'homme reconnaît son péché. Le croyant, septième point, le croyant reconnaît la réalité du péché. Comme Paul, par exemple, Romains 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Luther disait, « Je suis plus effrayé par mon propre cœur que par celui du pape et de tous ses cardinaux. » Alors, il voyait la méchanceté qui se passait à Rome, puis il disait qu'il était plus effrayé de son propre cœur que de celui du pape et des cardinaux. Ça parle beaucoup, ça parle fort. Il connaît le péché, sa force, sa séduction, et les difficultés de le mortifier. Les applications. Première application, « Prions le Seigneur de nous révéler le côté haineux du péché et de son immense gravité. Implorons-le de nous donner de le haïr sincèrement, de le combattre et de le mortifier vigoureusement et de le vaincre constamment par l'utilisation de tous les moyens de grâce dans nos vies et en assaillant le trône de grâce quotidiennement pour de la miséricorde. » Deuxième application, nous avons un urgent besoin de demander au Seigneur de nous sonder profondément pour nous révéler les innombrables facettes du péché, pour nous en inspirer du dégoût. Troisième application, n'oublions pas la sagesse de ce verset, psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, mémoriser la parole nous amène à avoir plus de force à lutter contre le péché. Que l'Éternel soit loué pour nous avoir donné son Fils Jésus-Christ, qui a vaincu le péché une fois pour toutes.
Amen. Amen.